et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Moi, c'est Apolline et je te propose aujourd'hui un épisode de la série Life Cohort. La série Life Cohort, c'est une série où je pars à la rencontre d'un ou d'une professionnelle avec qui je parle de mes sujets de prédilection. J'ai nommé l'orientation, l'inclusivité ou la transition. Aujourd'hui, je te propose de partir à la rencontre de Marcy. Marcy a plusieurs bonnets de bain, elle est à la fois conférencière, lanceuse d'alerte, consultante et facilitatrice avec comme sujet l'inclusion dans la tech. Comme tu as pu le comprendre, son outil préféré, c'est sa voix. Je l'avais contactée au début de l'automne 2023 pour parler ensemble lorsque je pensais à changer de ligne édito avec la piscine. Je me posais beaucoup de questions sur quelle posture adopter, quelle tonalité adopter et comment gérer justement l'exposition publique lorsqu'on était engagé. Et son premier retour a été aussi le plus fort. Marcy m'a dit « Parle, même si ta voix tremble ». Du coup, j'étais super curieuse d'en apprendre plus sur son parcours, la façon dont elle s'est appropriée tous ces sujets et dont elle a réussi à affiner sa plume et trouver sa propre voix. Je te laisse donc en sa compagnie, pour pouvoir découvrir tout ça, et je te retrouve en fin d'épisode. À tout à l'heure. Bien, c'est parti. Eh ben, écoute, merci encore, merci d'être passé sur cet épisode. Avant de commencer, je t'ai pas prévenue d'ailleurs la dernière fois, parce que c'est la question que je pose à tout le monde au début de mes interviews, c'est savoir quand t'étais petite, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui.
Là, c'est une question.
C'est la pire question à poser à quelqu'un.
Mais en vrai, ouais, parce que c'est très compliqué de. Tu vois, je me dis, je sais que j'ai voulu être plein de choses. Mais le truc qui m'a le plus marqué, je crois que c'était réellement de devenir journaliste. Et c'est quelque chose qui est resté, en fait, en moi, qui a été plutôt une espèce de. De fil d'Ariane sur toutes les expériences que j'ai pu réaliser par la suite. Mais. Il me semble, en gros, pour t'expliquer un peu, mes parents ils travaillaient dans la presse et du coup j'avais accès à des papiers journaux sans impression dessus. Et en fait, je réalisais déjà mes propres tribunes à 5 ans. Donc
attends, voilà. T'avais ok. Tu veux dire que t'avais carrément le papier vierge.
C'est ça.
Ok, mais génial.
Oui. Donc forcément, tu sais, il y a des moments où j'écrivais des écritures en boucle qui voulaient strictement rien dire avant d'apprendre à écrire, mais j'avais déjà l'idée de mettre une image à tel endroit, d'écrire un gros titre, etc. Donc c'est ouais, et en fait, je crois que t'as visé un truc, un sérieux souvenir très lointain. Mais oui, en fait, je crois que j'ai toujours voulu être dans la conception journalistique ou journalisme, en tout cas dire des choses, révéler des choses, quoi.
Ok, trop drôle. Tu sais que dans mes questions, j'ai vraiment devant moi noté pourquoi avoir choisi de prendre la parole. Et pour ça, tu vois, ça traiterait des mots et des choses, mais en fait, ça s'éclaire de par ce que tu viens de dire. Est-ce que tu te souviens des sujets que tu abordais déjà dans tes tribunes enfants ou pas du tout?
Mais j'étais très touchée par l'actualité. Je me souviens qu'il y avait toute la question d'injustice sociale qui était quelque chose qui m'intéressait. Déjà petite, parce que dans ma famille, c'était des sujets qui étaient facilement abordés de par mon métissage et qui mettaient du coup en avant certaines disparités suivant les individus de notre même famille, ou alors des disparités culturelles suivant les blocs familiaux. Donc je crois que c'était vraiment le pilier central qui finalement ne me quitte pas non plus.
C'est fou. Ok, mais ça éclaire plein de questions et plein de discussions qu'on avait eues aussi la dernière fois qu'on s'est vu, tu vois, sur comment tu crées des liens et comment tu tisses des ponts entre les différentes personnes et différentes choses. Et donc après, est-ce que tu peux m'en dire plus aussi sur ton parcours? Parce que je me souviens que tu m'avais parlé de la dev, de toute ton arrivée dans la tech. Et avant un peu de discuter de ce que tu fais aujourd'hui, j'étais curieuse de savoir par quelles étapes tu étais passée.
C'est super intéressant. De la presse. Oui, j'ai un parcours franchement qu'on peut qualifier d'atypique. Atypique parce que j'ai l'impression d'avoir vécu, j'ai trop l'impression de faire l'ancienne quand je dis ça, mais pas du tout en fait. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies dans ma vie déjà, alors que je suis fraîchement trentenaire, c'est un peu bizarre. Mais vu que j'ai commencé à faire
des trucs... C'est ce que j'étais en train de me dire.
Ok. Ouais. Tu vois, il y a ce truc très étrange où finalement, des petites, des gamines, J'avais déjà envie de faire des choses et quand il y avait des concours nationaux, j'hésitais pas à y aller en fait. Et du coup, mon parcours, il commence concrètement, on va dire d'un point de vue public, il commence à partir de mes 15 ans, ce qui est vraiment très tôt. Quand on y réfléchit,
Ouais, je veux dire, parce... prendre la parole, ouais. Conférence, etc.
Alors, okay. Prendre la parole à la télé.
Attends, ok, on n'a pas du tout parlé ça, là. Ça...
Non.
Mais, okay. Dis-moi tout, dis-moi en plus.
Ça, c'est, je te dis, c'est beau, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies, déjà, je suis fatiguée. Genre, j'ai trop de trucs derrière moi. Non, mais pour... au-delà de la boutade, non, concrètement, j'ai vraiment commencé à être exposée publiquement à l'âge de 15 ans parce qu'en fait, il se trouve que TF1 s'était intéressé à une des initiatives de mon lycée. En gros, où on avait un prix, tu vois, comme le prix Goncourt, nous, on avait notre propre prix dans notre lycée. Et donc, c'était le prix Alfort, parce que, voilà, tout dire, je viens d'une ville qui s'appelle Alfortville, qui est en très proche banlieue de Paris. Et
je vois très bien, je vois.
Voilà. Donc, les gens Alfort, Alfortville, les gens, généralement, ils savent, ils connaissent. Donc, c'est une ville où il y a énormément de diaspora, de gens qui viennent de partout, notamment une grosse communauté arménienne, mais pas que. Et donc, ouais, il y avait beaucoup d'initiatives sociales comme ça, et il se trouve que je faisais partie des jurés de cette édition. Et donc, TF1 s'était intéressé à cette initiative, mais c'était l'émission Vol de nuit, donc une émission littéraire qui passait tard le soir, voilà, qui était du coup dirigée par Patrick Poivre d'Arvor et toute son équipe, évidemment. Et donc, c'est comme ça que je commence à être connue. Donc, je vais commencer à faire mes premières interviews à 15 ans pour Le Parisien, je vais commencer à parler de bouquins, et il va y avoir un concours d'écriture. Organisé par TF1 sur quel est votre personnage de roman préféré. Et de fait, je participe à la dernière minute au concours et il se trouve que je suis prise. Et en gros, je commence à parler de livres et de justice sociale à travers les livres. Donc à partir de mes, donc je dis 15-16 ans. Quoi. Et c'est comme ça que j'arrive
sur ce
truc-là. Oui, c'est assez fou.
D'accord. Et donc après, t'as continué. Attends, mais comment t'es passée de ces tribunes sociales, de tout ça, à la tech?
Ah, mais c'est complètement ouf. Ensuite, c'est qu'en fait,
et surtout, en plus, tu me parlais de We Love Dev, donc en plus, dans mon esprit, tu vois, le milieu des devs, c'est vraiment un truc qui est un peu mythique à ces questions.
Oui.
Et donc, how?
I know, girls. C'est complètement fou. Non, tout simplement, en gros, je vais avoir post-bac un parcours qui ne sera pas du tout lié directement à la tech, en tout cas. Je vais me chercher un peu, je vais faire des jobs entre guillemets alimentaires, dans le sens que moi, j'étais déjà déterminée à aller vers la tech parce que plus jeune, forcément, je pense que comme beaucoup d'ados de ma génération, bidouiller, c'était déjà presque normal, en fait, de toucher à de l'HTML, du CSS, et regarder ce qui se passait derrière un site.
Pas dans mon adolescence.
Alors, du coup, je sais que c'était une façon de fonctionner qui était normalisée chez les personnes qui étaient assez, on va dire, enclines à rédiger. Notamment, moi, c'est le biais des blogs qui m'a donné ce truc-là. Et juste ça, exactement. Et c'était toute la façon de chercher du custom. Donc, je me disais, ah purée, alors du coup, est-ce que je peux imbriquer telle image à tel endroit? Est-ce que je peux réaliser des animations? Bon, avant, c'était avec des moyens, on va dire, complètement pétés pour aujourd'hui, tu vois. C'était pas aussi facile aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, t'as tout qui est en ligne hyper facilement. À l'époque, dans les années 2000, enfin, c'était pas... le web était ouvert, mais n'était pas si ouvert qu'aujourd'hui. Et t'as raison de dire qu'en effet, c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que je dis que c'est vraiment les gens qui étaient déjà intéressés par le web et par la rédaction sur le web. Parce qu'il y a aussi ce biais-là qui a beaucoup participé, moi, à cet intérêt. C'est qu'en fait, mes potes les plus proches, c'était des mecs. Et c'était des mecs qui avaient déjà leurs frères. C'est pour ça qu'il y a le lien de la masculinisation dans la tech. Leurs frères qui étaient déjà en école d'ingé, tu vois. Ou alors qui était voilà, donc il y avait tout un background informatique qui existait déjà dans mon environnement, même si c'était pas l'environnement de ma famille. Je sais que ça m'a beaucoup aidé à avoir un intérêt vers la tech. C'est comme ça que ça s'est imbriqué petit à petit. Donc, tu vois, comme quoi, le fait de vouloir parler au monde dans la justice sociale, d'écrire, d'avoir des tribunes, de customiser son blog, bah, finalement, petit à petit, ça a vraiment consolidé un lien qui était cohérent. Et du coup, pour revenir à ça, j'ai fait des jobs, comme je te disais, dits alimentaires. J'ai travaillé en tant que manager dans le luxe, surtout dans le retail, donc rien à voir, mais j'étais déterminée au bout d'un moment à me poser les bonnes questions en me disant, bon, alors vers quoi t'as envie d'aller vraiment dans la tech? Parce que c'est vaste, j'aurais pu être développeuse. Hein. Mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui finalement dans la tech existent et te laissent l'opportunité aussi d'avoir ce côté tribune qui n'était pas simple du tout à déterminer. Donc, en 2015, j'ai juste fait une reprise d'études complète où je me suis vraiment spécialisée dans la com digitale, la com tech par la suite. Et vraiment, j'avais un point d'honneur à faire de la communication numérique, quoi.
D'accord. Ah oui. D'où ton arrivée? Attends, c'était en 2019. Tu me
disais. C'est ça, chez Love Dev.
Chez Love Dev.
Exactement.
Qui est un média, donc.
Ah, totalement. Donc, en fait, c'est un média et un job board pour trouver son emploi quand t'es un profil tech. Du coup, j'ai pu intégrer We Love Dev en alternance pendant un peu plus de 2 ans, en fait. Ce qui est intéressant sur le rôle que j'ai pris à We Love Dev, c'est que déjà de base, moi, j'avais des envies d'inclusion et c'était une envie commune avec Damien Cavaillès, donc le CEO de la boîte.
Ouais.
Il était question de se dire comment on fait pour imbriquer tech, inclusion de tous les profils qui sont en train d'arriver en masse dans notre industrie. Parce que, mine de rien, avec toutes les campagnes de bootcamp, de reconversion qui ont été propulsées par le gouvernement, il y a eu aussi cette arrivée de nouveaux profils qui sortaient du cadre classique de la personne qui sort d'école d'ingé. Et donc, il était question de trouver une espèce de pont entre tout ça. Donc, moi, j'ai commencé en tant que chargée de communication et marketing. Mais au final, vraiment, on m'a attribué le rôle de rédactrice en chef assez rapidement pour piloter complètement la ligne éditoriale, mais pas que. Il y avait quand même une grosse partie UX. Donc, comment on arrive à... Ouais, il y avait beaucoup de choses à faire parce qu'il fallait retransmettre tout ça par le site internet aussi. Enfin, vraiment, on est passé d'un site à un autre. Les gens se rendent pas compte de tout ce que ça a demandé en termes de cohérence, de réflexion et d'alignement, en fait, pour tous ces points qui peuvent être un petit peu hors tech, hors champ. Ouais. Alors qu'en réalité, surtout quand tu travailles sur un job board, donc permettre à des personnes de trouver un emploi dans la tech, si on n'a pas l'approche la plus humaine possible, on pourra jamais coller... aux besoins de ses utilisatrices et surtout promouvoir des contenus qui leur parlent.
Ouais. Et c'est super intéressant en plus de se dire que... Bah après, c'est ce dont on avait un peu parlé, mais de se dire que l'inclusivité, ça passe pas juste par 2 ou 3 communications, par un job board, quel qu'il soit, mais que en fait, c'est toute une stratégie que tu mets autour pour faire en sorte que ça puisse changer. Et est-ce que vous aviez des... J'avais pas du tout réfléchi à ça, mais comment vous faisiez d'ailleurs pour choisir les entreprises que vous intégriez justement à votre écosystème? Est-ce qu'il y avait des critères particuliers? Comment vous faisiez pour vous assurer que les personnes qui étaient un peu, j'allais dire, différentes, qui pouvaient vouloir rejoindre le secteur de la tech, qui étaient ultra homogènes, n'allaient pas se retrouver catapultées dans des environnements de travail en fait toxiques, nocifs, dans lesquels ils allaient pile ou elles allaient finir en PLS plus qu'en arrivant?
C'est un vrai sujet que tu mets en question parce que, en plus, notre tagline à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais je crois que c'est toujours la même, mais c'était trouver l'entreprise où vous serez heureux, quoi, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc la promesse, elle était déjà très très forte.
Ouais.
Et c'est aussi de ça qu'est née cette. C'est même pas une envie, c'est cet engagement de promettre à des gens qu'ils atterriront dans le meilleur univers possible, d'entreprise possible, sous cet écosystème qui est censé être là pour garantir ton bonheur, c'est quand même très fort.
Bah, ouais.
Nous, faut bien voir le truc, c'est qu'on était en plein essor. La boîte, elle devait exister depuis quelques années, mais vraiment avec une toute petite équipe, genre 2-3 personnes maximum. Donc quand moi je suis arrivée, c'était une phase de croissance, il fallait tenir à la fois la croissance et en même temps les enjeux d'inclusion et en même temps les enjeux de recrutement et en même temps, enfin, du coup, il y avait beaucoup de choses. Dans une logique humaine, je te dirais que dans l'idéal, il aurait fallu faire un audit de chaque boîte, etc. Oui. Dans une logique business, on peut pas faire ça. Concrètement, ouais. Trop compliqué. Surtout dans une logique business de croissance. En fait, il y a des trucs sur lesquels on peut mettre ça en place plus tard. Donc, on s'était posé la question de éventuellement un baromètre genre une espèce de scoring d'inclusion. On s'était posé des questions même de gamification, genre peut-être même tu sais, des petites étoiles, en mode peut-être tu débloques des niveaux en tant qu'entreprise. Donc tout ça, ça fait partie de toute l'idéation. Franchement, c'était génial. Mais à mettre en place, c'est plus difficile quand c'est dans cette phase de croissance. Franchement, honnêtement, on les a poussés et c'est pour ça que on est plutôt parti sur l'idée, on fait une stratégie de contenu. Et en fait, on va laisser même les entreprises parler de ce qu'elles font, quitte à ce qu'on puisse les accompagner lors de podcasts, de soirées privées ou d'événements. Ça a été plus notre axe, surtout qu'en plus, nous avons été impactés par un certain virus qui a légèrement mis à l'arrêt.
Je vois pas de quoi tu parles.
un petit rhume.
Ouais, une petite grippe. On sait, on connaît.
Exactement, de quasiment 2 ans d'enfermement. Donc oui, tu vois, ça a encore plus de défis qui a été quand même sur notre route. Quoi.
Et comment tu fais pour... Attends, je vais reprendre les choses. Je me rends compte que j'ai plein de questions qui sont en train de popper que j'avais pas forcément prévues. Mais déjà, première question, je pense, pour les personnes qui lisent ou qui écoutent, ce serait de savoir, toi, comment tu définis ces sujets d'inclusion, de diversité.
Mmh.
Et après, je te poserai ma deuxième question, histoire de pas surcharger.
Non, bien sûr. Comment je l'ai choisi et comment je l'ai défini?
Ouais.
Ça a été un peu à tâtons parce que, en fait, vu que, pour la présentation rapide, je suis une femme non blanche, racisée, avec un fort background culturel qui vient de partout dans le monde. Je suis ouvertement LGBTQIA+. Et en plus de ça, j'ai un handicap invisible. Donc si tu veux, il y avait toute cette question de partir aussi de moi, mine de rien, qui me servait constamment de référence. Il y a aussi cette réflexion qu'on a à se dire que l'inclusion, c'est magique et c'est facile de... limite en prononçant le mot, on résout des problèmes. C'est pas vrai, c'est comme la bienveillance, c'est pas parce qu'on le dit qu'on l'est, en fait.
Oui. Et c'est au contraire. Plus t'as besoin de le dire, plus c'est problématique.
Ah, mais oui, et c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, je fais partie des personnes qui même est agacée par le mot inclusion parce que je vois que c'est utilisé à vide. Et du coup, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'ai eu cet engagement personnel et aussi avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, où je me disais, mine de rien, partir de soi, rencontrer d'autres personnes, d'autres profils qu'on met pas en avant dans la tech, c'est aussi une façon, moi, de garantir une forme de, comment dire, de, je dirais presque de neutralité observatrice, parce que je ne suis pas une seule, à moi-même, je ne peux pas garantir de couvrir les besoins de toutes les personnes dans la tech. Donc même si je partais de points différents, tu vois, j'avais quand même cette posture vraiment de... quand je dis neutralité, c'est absolument pas en mode je prends pas d'avis. Oui. Évidemment que j'ai un avis, une opinion et que ça se fait bien savoir sur les réseaux sociaux. Dans cette, tu vois, ne pas surpasser l'autre avec ma propre expérience, mais vraiment écouter et me dire, ok, cette personne-là a une forme de neuroatypie qui est pas forcément validée ni même entendue dans cet environnement. Moi, j'ai peut-être une forme de neuroatypie, mais je vais pas. Tu vois, je suis dans l'écoute, vraiment. L'idée, c'est pas de surpasser les gens. Et d'ailleurs, j'échange pas pour dominer la discussion. J'échange pour comprendre les besoins des gens. Ouais. Donc, cette posture-là, elle est complètement différente. Et ça, ça m'a énormément aidée pour choisir les articles, pour choisir les points d'engagement qu'on pouvait avoir. Parce que parfois, même si t'as l'impression d'avoir une expérience complète, elle sera jamais totale sur tous les points que la tech a abordés.
Oui, surtout que là, tu viens quand même... Enfin, t'as quand même... Je vais pas relister tout ce que tu m'as dit, mais tu cumules quand même certains aspects. Mais tu vois, même moi, en pensant qu'il y a plein de sujets qui me touchent aussi, Il n'y a que quelques, j'allais dire, cases à cocher, mais c'est horrible de penser.
Oui,
de
oui.
De penser en termes de scorecard, mais on s'entend.
Voilà.
Ouais. Donc pour toi, l'inclusion, c'est vraiment d'abord une question d'écoute et d'empathie.
Complètement. Dans mes études, c'était une volonté de ma part, c'était vraiment très orienté product owner, product manager. Donc, il y avait cette compréhension du besoin utilisateur qui était omniprésent. Et mine de rien, tant qu'on n'a pas cette posture un peu d'enquête, de réflexion des gens, des besoins des gens, tant qu'on... C'est là où c'est pas la même chose qu'un rapport journalistique, là où c'était une de mes spécialités sur ma dernière année, où j'ai été franco, j'ai fait lobbying et journalisme. Mais c'était, okay. Très intéressant de comprendre la... ouais. C'était très intéressant de comprendre la démarche. C'était des options, du coup, mais bon, voilà. Et là où dans le journalisme, on va plutôt t'inciter à avoir un angle, et on va t'inciter à avoir une voix. Typiquement, Léa Salamé, c'est pas... c'est pas Élise Lucet. Tu sais que ces deux personnes-là, elles ont des façons de communiquer qui sont complètement différentes, avec un angle journalistique qui est complètement différent. Ça, j'ai carrément appris à le maîtriser. Mais quand t'es dans une recherche utilisateur, de recherche de sujet, etc., tu n'es pas dans cette posture où ta voix doit surpasser celle de l'autre. Alors après, si dans une tribune, tu dois signer un engagement relatant, je sais pas, de l'engagement de la boîte à faire telle ou telle chose en faveur de l'inclusion dans la tech, évidemment que je vais avoir mon opinion qui va être affichée. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est pour ça que je te parlais de neutralité observatrice. Quand il s'agit de sonder, de chercher des sujets, surtout liés à des problématiques qui sont quand même un peu touchy dans un univers très homogène, on a plus intérêt à être dans une posture d'écoute, comme on le ferait dans la user.
Ok, mais c'est ultra intéressant de lier... Enfin, je le vois pas tant sur le côté journalistique, parce que j'ai pas du tout fait d'études journalistiques, mais plus sur le côté design.
Oui.
Ou, tu sais, sur le double diamant, ta première étape, c'est toujours tu vas sur le terrain et t'es une éponge, et tu fais remonter les besoins avant d'identifier le problème. Et c'est vrai que j'ai l'impression que... Et là, je sais que... Enfin, je sais, peut-être que t'auras une réponse, mais t'es en train de me dire, c'est fou, parce que j'ai l'impression que ce travail plus terrain d'études, c'est plus des personnes concernées qui le font, mais un peu comme, pour donner un exemple peut-être un peu plus mainstream, mais le côté MeToo aussi, où c'est les femmes qui ont fait remonter toutes ces questions-là. Et c'est, du coup, comment tu crées une posture d'écoute en face à ses besoins, et comment tu fais en sorte justement que d'autres personnes que ces personnes minorisées s'emparent de ces questions.
Complètement, c'est une question qui est très...
les sourcils.
Parce que en fait, je suis en train de me dire, c'est exactement à ce moment-là où en fait, c'est très tes questions, elles tombent bien parce qu'en fait, ça suit chaque étape, mais t'es au courant de rien, mais du fini de rien, tu t'arrives à anticiper le parcours vraiment au top du top. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, justement, comment j'ai choisi mes sujets, j'avais bien compris qu'il y avait un souci de femmes dans la tech. Étant moi-même une femme, du coup, on m'a moi-même posé la question si c'était pas problématique pour moi, en tant qu'individu, d'être dans un milieu masculin. Tu vois, genre, c'est une des premières questions qu'on m'a posées. Et petit à petit, c'est clair que, alors pas dans mon équipe directement, mais dans l'environnement de travail, dans l'industrie, j'ai bien vu que j'étais pas traitée de la même manière avec eux. Et encore, c'est là où l'intersectionnel est très intéressante, c'est que en tant que femme non blanche, je suis en plus LGBTQIA+, si tu veux, je suscitais tout un panel de fantasmes ou de questions liées aux fantasmes dans l'image d'Épinal. Mais oui, quand t'es une femme non blanche dans la tech, tu te ramasses de la misogynie, mais en plus de la fétichisation, par exemple, tu vois.
Ouais.
Et donc c'est tout ce cumul-là qui fait que je me suis dit, ah oui, donc il y a vraiment des sujets qu'on doit aborder qui font partie des causes de départ des femmes dans la tech. Et c'est comme ça que progressivement, à la base, j'étais dans cette posture de neutralité observatrice. Puis sur la deuxième année, donc l'année où j'ai vraiment pris les commandes en tant que rédac chef, là j'ai posté des articles sous mon nom. Où là, pour le coup, j'avais un angle journalistique. Donc là, ma voix, elle était lisible, audible, parce qu'on faisait aussi des lives, et clairement, tu savais qu'avec moi, il était question d'une inclusion C'était pas négociable, en fait. Tu vois, parce que c'était comme ça que je le voyais et que je le vivais, et je me rendais compte au travers des différentes personnes que j'arrivais à sonder. Et c'est là où je suis vraiment passée dans une posture qui m'a permis par la suite de faire des conférences. Enfin, faut être assez honnête. Plus t'es affirmé et plus t'as des angles qui font preuve à la fois de, bah oui, de, d'analyse, mais en même temps, on sent aussi ta personnalité là-dedans. C'est vrai que ça te donne un poids, en tout cas, t'as une voix qui est quand même plus perceptible, et on sait que, voilà, quoi, tu es toi en tant qu'individu dans une industrie.
Oui, surtout qu'en plus, j'ai l'impression que, bon, déjà, les femmes dans la tech, je sais plus, j'ai cherché. Alors, attends, je regarde mes petites notes, parce que je sais que sinon, j'oublie tout. Ah oui, c'est ça. C'était le, j'ai oublié la date, mais c'est le rapport, je l'ai vu passer partout sur LinkedIn ces derniers jours, sur justement l'égalité homme-femme, qui disait que c'était une femme sur deux qui quitte la tech après 35 ans.
C'est ça.
En plus, j'ai marqué entre parenthèses déjà qu'il y en avait peu, ça fait pas beaucoup. Et après, c'est, je crois que j'avais chiné ces chiffres, mais je ne sais pas exactement en fait sur les côtés intersectionnalité, tu vois ce que tu disais, ou c'était plus des rapports de chez McKinsey que j'avais trouvé cet été, et qui, et où c'était plus des questions de financement dans la tech. Donc, okay. Je crois que c'était 1,6% des financements allés à des personnes non blanches. Et je crois que c'était black et enfin noir et latin et latino. Ouais. J'ai des trucs en anglais, c'est pour ça. Et, et après, c'était pareil, genre moins de 2%. Donc, je crois que c'était 1,8 parce que c'était un petit peu plus qui allait aux femmes. Et donc, tu avais les deux. Donc, tu disais, bon, bah, c'est rien du tout sur tout le marché des VC et des invests. Mais quand tu croisais les deux données, je crois que là, on était à... Je ne veux pas dire de bêtises parce que vraiment, mais je crois que c'était 0,2 ou 0,1% des fonds qui allaient aux femmes qui étaient noires ou qui étaient d'origine latine. Je me disais, mais c'est dingue. Parce que quand on parle diversité dans la tech, moi je pense que, effectivement, la majorité des personnes pensent qu'aux femmes, alors qu'il y a un monde où il y a tellement de trucs à faire, ça me donne pas.
Mais complètement.
Et comment t'as fait, parce que la dernière fois, tu m'as dit, ça je l'ai noté, parle même si ta voix tremble. Justement, comment t'as fait pour passer de, tu vois, cette étape un peu neutre dont tu parlais, qui est quand même, enfin, moi je le fais aussi, je l'ai fait pendant un an et demi, où je parlais vraiment de la quête de sens, tu vois, en parlant des gens, mais sans trop me mouiller personnellement. Et comment t'as fait pour passer cette étape, te dire, bon, bah là, ça me semble important de porter mon expérience, ma voix, dans l'espace public.
Ouais.
Comment t'as réussi à faire ça? Donne-moi des tips.
C'est une question qui amène à des réflexions très ancrées. En fait, il y a un moment où la neutralité, c'est important. On ne peut pas être tout le temps dans la réaction. On ne peut pas être tout le temps dans une réponse émotionnelle. Le piège de ça, c'est que finalement, il y a aussi cet inconfort d'être un individu hors norme dans une norme. Et quand le poids de la neutralité se fait sentir plus comme un silence imposé qu'une tentative de recherche de paix, de conciliation, de ce qu'on veut, eh ben, il y a un moment où, en fait, cette neutralité-là, elle ne peut plus tenir. Et... Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que, à force de me rendre compte de toutes les injustices subies par les minorités dans la tech, il était essentiel pour moi, mais pas dans un syndrome du sauveur, hein, parce que, si tu veux, le fait quand tu le vis aussi toi-même dans une industrie, tu te dis, mais les gens sont pas entendus, sont pas pris au sérieux, et en fait, suivant qui tu es, en plus, t'as un poids de discrimination qui s'ajoute. Moi, j'ai l'avantage d'être non blanche et racisée, mais j'ai la peau relativement claire quand même. Donc, ça peut paraître bizarre, mais il y a un biais qui s'induit dans l'échange avec les gens. Bon, je sais que je serai plus audible, même si, hélas, je subis des biais racistes aussi, hein, mais c'est pas le même poids. C'est pas la même chose.
Mon esprit, je me disais, on peut pas tout avoir, mais c'est terrible, mais ça m'a fait rire, voilà.
Et en même temps, c'est drôle et c'est triste, mais enfin, là, c'est simultané. J'entends parfaitement ce que tu dis, c'est une réalité. Mais il y a ce truc là où où j'ai vite compris que mon poids dans cette industrie pouvait être réel. Et quand je l'ai compris en écrivant davantage d'articles, en faisant des appels aussi à sujet, parce qu'il était question de ça également, c'est de dire, bon bah voilà, sur telle période, on va parler de tel sujet, si vous avez envie de partager votre expérience. C'était pas uniquement genre juste inclusion en première instance, mais ça pouvait être des problématiques qui étaient beaucoup plus réelles, beaucoup plus pratiques, style comment on fait pour lutter contre l'âgisme en entreprise quand on est reconverti dans la tech. Tu vois, c'est ultra, c'est local.
Ouais,
quoi,
ouais. C'est très... ouais, mais ça fait partie de... Mais ça fait partie de ces sujets d'inclusion aussi.
Complètement.
Où, le fait est que dans la tech, il y a aussi très peu de... En fait, tu me dis tech, j'imagine pas quelqu'un depuis 40 ans, alors que...
C'est ça.
Alors qu'on on va y arriver.
Et puis, en fait, ce qui est encore pire que ça, c'est que quand tu creuses, l'image de la personne de plus de 40 ans, en vrai, tu l'as dans la tech. Mais c'est...
Oui, c'est ça, il y en a plein.
C'est ça. C'est un homme blanc qui a fait ses études d'ingé comme il fallait, qui est passé certainement par un poste de CTO, de senior lead, qui a fait ses armes même en conférence, etc. et qui a bénéficié ou qui bénéficie encore actuellement d'une certaine forme de visibilité. Ou alors, c'est des mecs qui ont inventé des langages et qui sont encore vivants. Là où nous, en tant que femmes dans la tech, et là je prends femmes au sens le plus large possible, on n'a que des role models mortes, en fait. Enfin, tu vois, c'est deux poids, deux mesures. Donc finalement, c'est normal aussi que les femmes s'en aillent, puisque quand tu n'as pas de représentation de qui peut t'inspirer encore, voilà, d'encore vivante, c'est très complexe de se projeter. Et donc voilà, ça fait appel à toute cette... En fait, on commence par un sujet et tu vois, on dépile tout un tas de sujets qui sont vraiment intrinsèques à la question de comment être une minorité dans cette dans cet environnement.
Ouais, oui, tu prends un angle d'attaque et après tu dis bon bah je peux déconstruire tout ce qu'il y a à déconstruire au fur et à mesure. Et comment tu je sais pas exactement poser comment tourner la question, mais est-ce que t'as senti des barrières ou des levées de boucliers en fonction des différentes thématiques et sur lesquelles?
Alors, il y a un truc qui a été assez clair, c'est que pour pas mettre We Love Dev dans la sauce, j'ai préféré m'en aller.
Donc, je devais faire carrément dans la sauce. Okay.
Ah oui, oui, non, mais clairement, en fait, il y a eu un moment où je te dis la neutralité, elle est plus maintenable. Et moi, je sentais bien qu'au fond de moi, c'était juste plus possible, en fait, de. Bah, encore une fois, on revient à cette histoire de justice sociale. Mais pour moi, il était vraiment de plus en plus compliqué de voir autant d'injustices. T'en as parlé, rien que les allocations budgétaires par segmentation de population, c'est plus que parlant. Donc, on va arrêter de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben, tant pis, je renonce à mon CDI, mais je me lance en indep et je vais faire des conférences et je vais assurer de mon propre chef sur les réseaux sociaux, notamment Twitter à l'époque, la révélation de toutes ces problématiques. Et c'est comme ça que je l'ai fait. C'est vraiment en me rendant encore plus indépendante que je ne l'étais à l'époque, parce que il est évident que quand là pour le coup tu deviens comme je disais une Élise Lucet de ton écosystème, tu peux pas te permettre de mettre une entreprise sur tes positions. En fait, ça ne fonctionne pas dans une logique business. Non, ça fonctionne pas. Il y a un moment l'inclusion corporate comme on l'entend, oui, je sais gérer, je sais faire, mais il y a eu ce truc où c'était très compliqué. Où clairement, moi, mes prises de position, même aussi soft soient-elles, devenaient des motifs de levée de bouclier hardcore avec je me suis ramassée des insultes, des menaces. Donc, la levée de bouclier, je l'ai vécue, et je l'ai beaucoup vécue en ayant une exposition publique encore plus importante. Et de fait, c'était, je pense, une étape qui était impossible, je te dis avec beaucoup de recul, mais je pense que c'était impossible à dévier ou à ne pas vivre, parce que quand tu arrives en tant que femme avec autant d'intersections, c'est, et que tu parles, comme on disait, c'est parle même si ta voix tremble. Moi, quand j'ai c'est même pas des avis genre uniquement sentimentaux, c'est pas que l'émotionnel. C'est appuyé par des chiffres, c'est sourcé. Mmh. Quand tu récupères beaucoup de témoignages d'autres femmes, un peu comme une espèce de MeToo, où t'as des étudiantes qui disent qu'elles peuvent pas te poser de questions parce que si elles posent des questions et qu'elles passent au tableau, elles se font littéralement insulter de putes ignorantes par leurs camarades masculins. Oui, c'est, en fait, il y a un moment, c'est... Ouais. Oui, oui, complètement. Okay. Mais en fait, on parle des femmes qui s'en vont, une femme sur deux s'en va après 35 ans dans la tech, mais jusqu'ici, combien ont résisté, hein? Okay. Jusqu'ici, combien ont résisté pour être là, quoi, tu vois?
Oui, donc en fait, la levée de bouclier, les sujets qui, j'allais dire, qui font trembler, c'est des sujets. Là, c'est vraiment ma subjectivité qui s'exprime. Hein. J'allais dire des sujets basiques.
Oui,
de, respect et d'égalité en femme. Alors que dans mon esprit, ça devenait quelque chose de très... Peut-être pas mainstream, le terme est très mal choisi, mais comme par exemple sur Welcome to the Jungle, t'as des indices d'égalité, etc. Donc, pour moi, ça devenait un sujet, pas un non-sujet, mais un sujet sur lequel on était tous et toutes très, très tard à échanger, à faire bouger les choses. D'accord, donc c'est aussi basique que ça.
Oui, vraiment. C'est là où moi je suis devenue encore plus, encore plus militante, pas activiste, hein, mais militante, en me disant, mais en fait, pour des choses qui sont aussi simples, on peut pas avoir autant de complications pour des choses aussi simples que du respect, en fait. Et c'est là où cette neutralité observatrice, elle peut pas continuer. Enfin, c'est juste, c'est juste pas possible, quoi. Donc oui, je suis allée franco et j'avais vraiment, tu sais, il y avait les premières fois, bon, ça revient un peu à cette question de est-ce que je peux avoir des tips sur comment je prends la parole, etc. Mais faut se dire que même si on a peur, parfois il faut dépasser cette peur-là, c'est hyper important. Évidemment, faut pas se mettre en danger psychologique ou quoi. Ça, non, seule santé mentale, faut la préserver.
Oui.
Mais mine de rien, prendre la parole, dire les choses, c'est aussi un point sur lequel, eh bien, le groupe homogène dominant de la tech s'appuie pour continuer à perpétrer ses avantages. Donc, moins on parle, moins on est vocal. En fait, moins on fait comme si, en fait, on standardise le fait qu'il n'y a pas de problème, puisqu'on ne parle pas. Mais on ne parle pas du problème. Donc, forcément, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui disent, bah oui, mais en fait, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, elles nous ont jamais parlé de ça. Bah oui, mais entre femmes, on en parle. Donc, c'est bien qu'il y a un souci.
Oui, mais c'est comme se dire, enfin, moi j'ai débarqué sur LinkedIn il y a un an quasi, et au début mon feed que j'ai cliné de fou, mais c'était exactement les mêmes profils qui faisaient à peu près les mêmes choses, et je comprends et je vois aujourd'hui tous les défis, les challenges, tu vois, entre femmes, et je me dis, mais c'est normal que tu veuilles aussi donner une plateforme à des personnes qui sont sous-représentées dans ces espaces,
bien sûr,
parfois un peu anxiogènes. Et c'est... Attends, je voulais juste revenir sur ce que tu étais en train de dire sur le fait que ta parole... tu disais la neutralité n'était plus possible et ta parole est devenue militante.
Ouais.
Ça, c'est des questions que je me pose énormément en ce moment et qui fait partie de mes débats quotidiens avec mes collègues dans la piscine et ailleurs. Mais quelle différence, parce que tu as utilisé plusieurs termes. Tu as utilisé le terme militante, engagée et activiste.
Ouais.
Quelle est la différence que tu fais entre les trois? Pourquoi tu te considères militante plus qu'engagée ou plus qu'activiste? Est-ce que tu peux m'en dire plus?
Vraiment. Alors là, je vais répondre avec subjectivité, je pense.
Mais je pense que c'est toujours comme ça, parce que chacun a ses définitions. Tu vois, moi, le pourquoi du comment, la question commence à commencer à émerger, c'est que on commence à me dire de plus en plus ou à me taguer sur des choses en disant « Tiens, je pense à toi parce que c'est militant. Qu'est-ce que ce que tu fais militant ?» Et moi, dans mon esprit, ça ne l'est pas du tout. Enfin, je ne me définis pas comme telle. Tu vois, moi, je suis un peu une reporter de... J'ai pas de carte de presse. Mais tu vois, une reporter, j'allais dire, de l'intime et de la vie de tous les jours. Avant, je parlais de la quête de sens, des gens à côté de qui je pouvais m'asseoir et qui me disaient « Meuf, je suis paumée dans ma vie. » J'ai juste ajouté une couche qui est ce côté « Bah, je suis quelqu'un hors norme dans un endroit assez homogène. Comment je trouve ma place ?» Donc, la typologie des personnes est peut-être un peu plus diverse, mais je continue à raconter ma life. et les gens me disent « tiens, c'est militant ». Et donc, dans mon esprit, pas du tout. Je me rends compte que des fois, l'intime est politique. Je dis des fois, mais l'intime est politique. Et donc, je me demandais, toi, comment tu définissais ton travail et comment tu faisais la différence entre les trois. Parce que sachant que moi, ma définition de militant doit être différente de la tienne.
C'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je le vois vraiment comme une espèce de curseur, tu vois. Genre, il y a le niveau zéro, il y a engagé, ensuite il y a militant et ensuite il y a activiste au bout. Par exemple, moi, je le vois... Enfin, du coup, ce que tu fais, je pense que par définition, en effet, c'est politique. Mais à côté de ça, je te vois plus entre engagé et militant que purement militant. Tu vois, je j'arrive pas à...
Ah, mais moi, je le vois pas du tout comme militant. Enfin, je le vois comme engagé, mais pas...
Moi, je suis assez d'accord. C'est, en fait, pour moi, c'est entre les deux, parce que, mine de rien, les sujets que tu prends sont quand même... Il y a une forme de militantisme dedans, mais c'est plus politique. Et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a tendance à imaginer que tout ce qui est politique est militant. C'est pas vrai, hein.
Parce qu'en plus, politique, c'est vraiment ce qui apporte à la vie de la cité. Enfin là, vraiment, je fais ma grosse littéraire, mais c'est le côté étymo. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, toutes les... je dirais même l'endroit où tu vas faire tes courses, ça devient un truc politique.
Bien sûr. Non, mais complètement. Et puis, dans la politique, il n'y a pas que du militantisme. Oui, alors il y a de l'opposition, il y a de la diplomatie. Quand tu fais de la diplomatie, tu peux te permettre aussi de ne pas faire de militantisme. Hein. Donc, c'est aussi un art d'être militant sans rentrer dans la violence militante. Donc, bon, pour ça que...
Pour toi, du coup, militant, il y a forcément, et activiste, il y a une violence qu'il n'y a pas dans les autres.
Oui, okay. Enfin, clairement. Pour moi, en fait, ça va être... Le militantisme, c'est là où tu commences à avoir ta levée de bouclier. C'est pour ça que je dis que, tu vois, je me sens plus militante que... alors, évidemment, d'un point de vue corporate, je suis engagée. Dans ma vie de tous les jours, je suis engagée. Mais à côté de ça, je vais pas hésiter à utiliser ma voix, mon image publique, pour faire preuve de militantisme et de créer des réactions violentes chez les gens. Ça veut pas dire que j'ai envie de les martyriser, mais c'est-à-dire que les points que je dis, parfois, ou même le fait d'être le messager ou la messagère d'un message violent, fait que par défaut, tu deviens violent pour l'autre. Et
Attends, j'essaye d'intégrer ce que tu dis au fur et à mesure. C'est-à-dire que toi, c'est à la fois dans les réactions des gens que c'est violent et dans les messages que tu passes. Du coup, je comprends pas. Tu dis dans ma vie, perso, et dans ma vie, enfin perso, je veux dire hors réseau, t'es engagé, mais donc tu transformes ton message, la manière dont tu vas transformer ton message pour qu'il soit plus percutant, te transforme en quelqu'un de militant. Donc ta marque personnelle est militante, mais toi tu es engagé.
Exactement, totalement.
Ok, c'est d'accord, exactement. Ok.
Mais tu vois, à côté de ça, je ne fais pas d'activisme. C'est-à-dire que tu ne me verras pas chez les femmes, par exemple. C'est quelque chose que je ne ferai pas parce que je ne me sens pas du tout à l'aise dans ce type d'événements. Ou comme des événements PETA, où tu as des gens qui, du coup, se mettent au sol dans des barquettes, ou si Shepherd, voilà, n'hésite pas à aller... prendre d'assaut des chalutiers. Voilà, moi je suis très admirative de ça parce que ça demande une certaine forme de courage et de dénonciation qui utilise le corps physique. Moi, je non. Enfin, le seul activisme que je peux faire, c'est aller physiquement en conférence. Mais tu vois, enfin, si je dis que je suis activiste à ce niveau-là, franchement, les vrais activistes vont se foutre de moi quand ils vont me dire « Oh, elle dit donc, elle courage, hein, courage. Elle était pas là avec lui, entre eux. »
Ouais, et en même temps, chacun agit aussi à son échelle et en fonction, j'allais dire, de ses privilèges, parce que tu peux pas, enfin...
Totalement.
Faire en fonction... Ok, mais super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a... Vraiment, je dévie, mais qu'est-ce qui... Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à miser sur ce militantisme dans la façon dont t'as construit ta marque perso plutôt que sur l'engagement?
Parce que, en fait, vu que les gens commençaient à plus me connaître progressivement sur cet angle-là, il était plus cohérent et plus sincère avec moi-même aussi que je reste dans cette dénonciation de faits violents. Tu vois, c'est là où je dis que, franchement, parfois, j'étais pas du tout... dans la violence, mais quand tu rapportes des faits violents, vraiment, il y a cet effet, il y a ce biais qui induit que toi, en tant que messager ou messagère, tu deviens violent par définition. et tu crées des réactions violentes. Et c'est vraiment ce truc-là, je crois, qui m'a poussé à rester là-dessus, dans cette cohérence et dans cette sincérité que j'avais aussi à ce moment précis de ma vie. Alors j'ai arrêté entre guillemets. On arrête comme on peut, dans le sens que voilà, je ne m'expose plus sur les réseaux sociaux comme j'ai pu faire jusqu'à quelques mois, genre cet été.
Okay.
Mais à côté de ça, donc été 2023, si jamais vous écoutez le podcast Ultra Nature.
Non, et puis surtout, j'étais en train de me dire, été 2023, c'était il n'y a pas si longtemps non plus, donc t'as tenu quand même longtemps.
Ah bah,
sous le feu.
Totalement, complètement. J'ai tenu longtemps, mais en gros, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est de se dire jusqu'où on a ses propres limites, et comme je le disais, on a aussi sa propre santé mentale et on n'en a qu'une seule.
Ouais, ouais.
C'est important de prendre soin de ça, et donc oui. Je pense qu'il y a une phase où c'était important pour ma propre santé mentale de tenir ces messages de cette manière-là, parce qu'en fait, c'était juste plus possible pour moi d'accepter autant d'horreur, quoi. Ce qui est assez normal dans un acte... je sais pas, est-ce que c'est de la rébellion? Est-ce que c'est... Moi, je le vois plus... En tout cas, c'est comme ça que je le définis à titre perso. C'est, moi, je voulais contrecarrer le statu quo. Et je me disais, mais c'est... Non, en fait, il y a un moment, je vois pas pourquoi on ne devrait pas remettre en question les financements faciles pour une certaine forme d'homogénéité dans la tech et trouver ça normal et le standardiser et dire ah ben non, mais de toute façon, s'ils se plaignent pas, ces gens, on a affaire, quoi. J'étais là, je me disais, mais non, non, c'est pas possible quand on a des étudiants qui révèlent bah, du coup de la culture du viol. Je sais pas si t'as entendu parler de ce truc là, mais. En gros, il y avait une blague. Encore une fois, la blague sert à l'oppression, hein. On va le rappeler.
Ouais, quand même. Okay.
Voilà. Sauf les blagues à Toto, encore. Mais ouais, il y avait des étudiantes qui avaient révélé sur Twitter en 2022 qu'elles avaient été victimes d'une blague dans leur école d'ingé, de la part de leurs camarades, d'un petit écriteau sur lequel il était affiché qu'ils avaient... éjaculé dans les lavabos et que du coup ils étaient hors service. Et j'étais là, je me suis dit mais toujours plus dans l'horreur en fait. Enfin, c'est incroyable. Et tu vois, c'est mis bout à bout toutes ces expériences. Okay. Vraiment, je te dis, je peux t'en partager, mais alors pléthore. Okay. C'est toutes ces expériences-là qui ont fait que j'étais en mode mais je peux pas me taire, quoi. C'est pas possible. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit. Parce que si tu veux, c'est là aussi où c'est intéressant. Il y a certainement des personnes qui vont se dire « Oui, mais en
oui,
même
parce
temps... »
À l'inverse, je suis une fille.
Non, mais c'est ça, déjà, à l'inverse, c'est ce que t'as déjà vu des femmes dire ce genre de truc. Enfin, voilà. Et puis, il y a ce truc où je me dis, il y a peut-être des personnes là qui vont être en train de se dire « Oui, mais après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des blagues d'étudiants. Voilà, c'est du bizutage. C'est... » Oui, mais le seul problème, c'est que quand on a ces personnes-là qui sont, du coup... des adultes grandissants qui vont avoir accès à tout ce capital, qui vont ouvrir des boîtes. Qu'est-ce que ça donne en bout de course? Ça donne des entreprises, ça donne un écosystème qui vont avoir une culture commune. Et c'est exactement ce dont on est... en fait, ce que j'essayais de révéler aussi dans mes voix plus militantes, c'était de faire comprendre aux gens que quand il y a des personnes qui sont issues de minorités qui disent « nous vivons dans... » dans un environnement toxique, dans un écosystème toxique qui ne nous écoute pas, il est important de saisir qu'en fait, tout cela vient de là. C'est culturel. Quand on standardise les pires pratiques, en fait, on se retrouve dans des consortiums d'alumni des mêmes écoles qui ont grandi dans les mêmes pratiques dégueulasses qui vont finalement avoir accès à tous ces capitaux, parce que c'est du réseau, hein, faut arrêter de se mentir, pour une très grande partie de ces personnes-là. Et puis après, tu te retrouves avec des petites manœuvres sympas de la Startup Nation qui disent « Bon, ben du coup, on vous a ouvert un petit budget là pour vous, là, les parias de la tech, là, les gens en dehors de l'homogénéité. Bon, on est bien sympas. » Et voilà. Et en fait, c'est encore plus terrible parce que au-delà de faire subir cette culture-là, attention, on est quand même dans une bonne œuvre en tant que personne homogène à avoir ouvert un petit budget là pour faire plaisir aux minorités. C'est pas de la charité en fait. Quand on parle d'égalité des chances et que ça fait partie de notre devise, je comprends pas qu'on puisse accepter tout ce truc là. Et c'est là où Je dis que les gens étaient en mode « Oh, mais elle est violente !» Bah, désolée, en fait, la société l'aide, donc si je fais que relater des faits...
Oui, en fait, je pense que c'est peut-être... Oui, en fait, en t'écoutant, je me dis que c'est aussi... se dire que c'est des personnes contre qui la société n'a jamais été violente, qui
partent
que aussi des violentes. Donc c'est ça qui est aussi un peu dur. Et comment tu fais... justement, comment tu crées un crew de personnes ou comment tu crées ton écosystème aussi de personnes qui peuvent te soutenir dans ces moments où tu prends la vague,
ouais.
Prends les boucliers, parce que je me dis, on parle beaucoup de sororité, etc., mais j'avouerai que je place que ce genre en fait d'écosystème dans la tech, mais pas forcément d'écosystème peut-être plus divers. Après, c'est aussi qu'on est en France, petit disclaimer, parce que tu vois, les données que je t'ai données tout à l'heure sur les levées de fonds, c'était des données américaines de McKinsey America, et je sais très bien que pour l'instant, les personnes que j'ai rencontrées en France, il y a souvent ce truc de dire on n'a pas le droit, on ne peut pas récupérer ces données-là. Et donc, je trouve ça difficile, ne serait-ce que d'identifier en fait les personnes sur qui tu peux, pas forcément compter, mais à qui tu peux venir dire s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je pense que c'est un travail de fond, de fou, mais je connais beaucoup le milieu de l'impact, donc c'est plus simple pour moi, mais sur la tech, je pourrais pas te citer des consortiums qui sont divers, de tous les points de vue.
Oui, complètement. Bah, si tu veux, moi, il y a un premier truc qui m'a mis un peu d'espoir et de baume au cœur quand j'ai quitté Love Dev, donc c'était en fin 2021. Je commençais à voir des actions plutôt positives de la station F exactement, la fameuse, qui mettait en avant, des profils qu'on dirait... Pardon, désolée, il fallait que je charge mon...
Non, t'inquiète. Non, en plus, je me disais, mais c'est pas mon ordi qui a fait ce bruit, même si c'est le bruit de mon mec d'habitude. Donc c'est ouais.
Non, j'avais pas du tout de batterie, je sais pas ce que j'ai fait, donc désolée.
Mais, t'inquiète.
Mais ouais, du coup, ce qui s'est passé pour la station F, c'est que forcément, quand t'es en charge d'une ligne édito et que tu cherches des profils qui sont de plus en plus diversifiés, tu finis par atterrir quand même dans des communautés genre France Digitale c'est ça. Je voyais de plus en plus de profils différents. Et le truc qui m'a vraiment mis du coup au cœur, comme je te disais, ça a été de découvrir Anthony Bagbin, que tu connais peut-être.
Ah oui. J'ai jamais prononcé son nom de famille à voix haute, mais oui.
Ouais.
De Diversity Days.
Exactement, de Diversity Days. Et je suivais aussi avec beaucoup d'intérêt les travaux de notre ex-ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient organisé une conférence en fin 2021. Justement pour mettre en avant des personnes qu'ils avaient choisies pour la qualité de leurs initiatives et aussi démontrer quelles étaient les initiatives qu'on pouvait faire en tant que personne diversifiée dans la tech. Et donc je m'y suis rendue, et quel ne fut pas mon bonheur de découvrir qu'il y avait Elisabeth Moreno en plus sur scène ce jour-là. J'ai découvert des initiatives de ouf, notamment la créatrice de... comment s'appelle cette application ? Je n'ai plus le nom, donc je vais peut-être te le donner après. Mais en gros, c'est une application de signalement.
C'est Sorority.
Sorority, c'est ça le nom ?
Ouais, The Sorority. Et okay. Donc c'est quand tu déplaces, tu peux trouver un écosystème de personnes. Elle organise aussi des festivals.
Alors, je ne connaissais pas ce truc-là, et non, c'est autre chose, c'est un signalement à la police quand tu es victime de violences sexistes et sexuelles au domicile ou pas.
Je connais pas cette app.
Ouais, faut que je te la passe, parce que ça va trop te parler, tu vas trop aimer. Et vraiment, en fait, du coup, la fondatrice, la créatrice de cette application était... tellement inspirante à expliquer tout ce qu'elle avait mis en place, ayant vécu ça elle-même, l'ayant vu dans son... Ouais, vraiment génial. Hein. Dans son environnement, dans son entourage. Et tu vois, c'était une des initiatives de la soirée. Et en fait, pendant toute la nuit, forcément, j'étais juste en train de me dire, mes preuves, qu'en fait, on peut, en tant que personne issue des minorités, donner un angle aussi qui, par sa diversité, offre des outils qui ont des conséquences réelles d'aide, de soutien dans la vie des gens. Alors évidemment, tout le monde n'est pas voué à faire de l'impact. Genre, quand t'es une minorité, t'es pas obligé de faire de l'impact, hein, je le tiens à dire.
Oui.
Alors, tu peux faire du business comme les hommes blancs qui sortent de l'école d'ingé ou d'HEC.
Et au contraire, enfin, je trouve que en plus, c'est de là aussi que vient la vraie diversité, la vraie inclusion. Donc, tu peux créer n'importe quel projet et que tu peux choisir en fonction de ta diversité,
mais c'est ça,
de tes compétences.
Mais carrément. Et c'est vraiment ce truc-là où il y a, comment dire, c'est là où tu te rends compte que finalement, il y a même aussi des biais dans ce qui est alloué comme un truc faisable pour une certaine typologie de personnes et pas d'autres. Mais voilà, donc cette soirée-là m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui était possible de faire. Et il y a eu cet autre truc qui n'a rien à voir avec ça, mais qui était beaucoup plus organique, où finalement, quand tu prends la parole, comme je l'ai fait, en faisant des conférences partout en Europe et dans le monde en vrai aussi, les gens viennent à toi. Il y a vraiment ce truc de quand t'es vocable, quand tu... Moi, ce que j'aime bien dire, et c'est un vrai truc, c'est que je défonce des portes pour que plus personne n'a se posé la question de qui a la clé. C'est juste que je la défonce, les gens s'engouffrent, après, on pave le chemin ensemble, tu vois, c'est très bien. Mais à côté de ça, tu vois, ça me poserait pas de problème, par exemple, de disparaître de la tech dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je mets pas d'ego en fait, dans ce que je réalise. Ça a été tellement dur juste de voir... et de le vivre aussi, hein. Toutes ces injustices sociales que je me disais, mais il faut que quelqu'un prenne la parole, parce qu'en fait, c'est des paroles qui sont tellement... Avant, franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein. Mais c'est dans la tech française, si tu veux, la parole des femmes était tellement standardisée sur un certain ton, par une même typologie de personne, découverte. Non, mais c'est, franchement, c'est pas méchant, mais la parole des femmes racisées, elle n'existait pas, tu vois. Enfin, à moins de coller au modèle de la prise de parole des femmes blanches qui, du coup, pouvaient parler de ce sujet-là. Le délire de l'intersectionnel, c'était pas connu. Le délire de tout ça, du cumul des mandats, de la discrimination, c'était pas connu. Et pour moi, il était évident que de défoncer toutes ces portes-là en disant « Eh, désolé, moi, je vais pas être agressive, mais je vais être assertive, et quand je dis des trucs, c'est pas dans le vide, en fait. Parce que c'est pas parce que je suis une femme que je mérite pas le droit à l'écoute, déjà. Donc, et puis même si vous m'écoutez pas, c'est pas grave, je vais crier. Donc, si vous êtes loin, je crie, en fait, pour que ma voix porte. Il n'y a pas de souci. C'est ce truc.
Je vais venir sur Twitter vous chercher.
C'est ça, j'étais là genre « Eh, vous inquiétez pas !» Franchement, je vais dire des vérités qui vont déranger tout le monde. Mais en fait, c'est là où c'était une prise de risque. Mais en même temps, il y avait ce truc. Les gens étaient tellement... Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'attentes. Je savais qu'il y avait de l'attente par rapport à mon expérience chez Lyon. Tu vois, voir aussi toutes ces personnes qui venaient en message privé me balancer des témoignages, me dire des trucs. Et finalement, c'est là où c'est assez intéressant. C'est que ça a créé de manière organique des communautés. Des gens qui justement ne voulaient plus vivre tout ça. Donc, en effet, ça crée vraiment une espèce de petit... ça va faire plaisir à la culture française, le petit village de Gaulois, tu vois, en train de résister dans tout.
Oui, donc, oui, oui.
Exactement.
C'est ça, c'est ça qui est bien et intéressant ici, et important d'avoir des gens sur qui se reposer.
Complètement. Et c'est intéressant aussi de se dire que dans toutes ces individualités-là qui traversent des trucs qui sont pas forcément simples... c'est dans ces zones-là qu'il faut faire super gaffe à l'ego et justement reprendre cette posture aussi de neutralité. Moi, ma parole, en tant que femme racisée, non blanche, mais pas noire, même si je suis africaine, hein, je peux pas... si tu veux, j'ai pas mon mot à dire sur l'expérience des femmes noires. Genre, je ne me permettrai pas. Je ne vis pas la même chose, je vis pas les mêmes enjeux, en fait. Rien qu'à l'accès, je sais pas moi, au logement ou... j'ai pas un nom à consonance. Je suis personne pour estimer que ma voix en tant que nana qui démolit des portes, entre guillemets, doit surpasser la voix de personnes qui vivent pas les mêmes enjeux que moi. Et c'est, tu vois, c'est toute cette gymnastique hyper importante à garder à l'esprit, parce que c'est Je pense que c'est très facile de retomber dans une réplique, un peu comme dans le triangle de Cartman, tu sais, où t'as le...
Non, le gros persécuteur.
Ok, bah c'est...
Ah, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire, c'est...
Ouais, c'est le triangle.
Mais c'est sur les dynamiques toxiques.
Exactement,
c'est pas ça.
C'est la dynamique du... Attends, comment ça s'appelle? Ouais, ça c'est dramatique, je crois.
Sauveur, victime, ouais. Bourreau.
Exactement. Et du coup, ouais, okay. Chacun peut interchanger le rôle dans un autre, ou tu peux carrément être victime à bourreau, etc. Et très compliqué de pas tomber dans ce jeu-là. Parce que c'est très facile, en fait. Et il faut vraiment faire attention à reprendre cette posture de « waouh, notre réalité observatrice ».
Ouais, c'est une gymnastique constante, et en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, le fait d'être à l'intersection de différentes discriminations, ça fait que t'as peut-être aussi beaucoup plus d'empathie et de recul sur ces choses-là.
Complètement.
Ce qu'on n'apprend pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est trop intéressant. J'ai perdu le fil de tout ce que j'étais à... Ah oui, si, et je pense que c'est une des dernières questions que je voulais te poser, parce que c'est un peu se demander... Enfin, tu vois, tout ce que tu dis sur le fait qu'une fois que t'as eu ces levées de bouclier, que les gens ont compris, vu quels étaient les sujets qui te tenaient à cœur et que tu voulais défendre pendant ce cycle de ta carrière, on avait parlé la dernière fois, tu fais de dire comment t'étais passée de... Les termes vont être très crus et très bizarres, mais j'allais dire de token à...
Oui.
Un peu à passer au banc de la société, mais c'est savoir comment justement tu... compose et comment tu peux créer de l'inclusivité. Je crois que c'est Lily Singh, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est une vidéaste qui s'est lancée, je crois, en 2012 sur YouTube, qui est je sais pas si comment tu dis ça, américano-canadienne, d'origine indienne, et qui racontait un peu son quotidien par le biais de vidéos marrantes pour donner... pour partager un peu ce qu'elle vivait en tant que femme d'origine indienne dans un pays anglo-saxon. Et elle parlait beaucoup du fait que maintenant elle s'est fait une place, elle a son late night show sur, je crois que elle est super méga connue. Et un des trucs qu'elle disait tout le temps, elle a fait un TED là-dessus, c'était de dire pendant très longtemps j'ai voulu avoir une place à la table. Donc genre, je collais ma chaise et j'essayais de me faire entendre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt agrandir la table ou construire une table carrément où tout le monde aurait sa place. Et c'est un peu ça, tu vois, la question de dire comment tu cherches, est-ce que tu estimes avoir trouvé ta place, tu vois, dans cet environnement, et comment on pourrait faire en sorte de faire avancer les choses à la fois par la parole, mais aussi par le passage à l'action.
C'est complet. Et en fait, pendant que tu étais en train de me décrire le TED, je me suis dit, mais si, je l'ai vu. Je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit, mais je suis d'accord. En fait, je me suis beaucoup retrouvée dans son témoignage, parce qu'en effet, il y a ce truc de te dire, je peux faire partie de la tablée. Et en effet, tu vas pousser les autres chaises, pour être autour de la table. C'est une solution. C'est une solution, mais il y a deux risques. Le risque de l'intégration. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tu es à la table? Comment tu participes à la tablée?
Et comment tu gardes ta place, du coup?
Exactement. Et l'autre risque, c'est se dire l'assimilation. Parce que mine de rien, quand tu fais partie de cette table-là, va falloir que tu assimiles des codes. Jusqu'où tu es capable de paumer ton identité et de la faire jaillir à certains moments. Et c'est tout le piège de l'inclusion, c'est que souvent les gens imaginent que l'inclusion, c'est de l'assimilation, c'est de l'intégration. Pas nécessairement. Ça peut juste être accepter les gens comme ils sont, à faire partie d'un même environnement, d'un même secteur, sans modifier intrinsèquement qui ils sont sous une forme de domination. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Donc oui, parfois, on a besoin aussi de se dire qu'on fait partie de la discussion, mais qu'à côté de ça, on a quand même la possibilité d'avoir des trucs en non-mixité qui te permettent de pouvoir faire avancer certaines discussions qui sont propres à ta communauté. C'est important d'avoir ces espaces-là qui sont préservés et qui te permettent de challenger avec soit des communautés croisées ou alors des intersections communes, sans être dérangée systématiquement par des prises de parole intempestives qui te remettent systématiquement à un niveau ou qui te mettent en doute, etc. C'est ce qui est très complexe, c'est de savoir comment tu trouves ta place et comment tu arrives à déterminer jusqu'où tu es capable d'accepter ou de ne pas tolérer certaines choses. Et là, je te répondrai que la réponse, elle est purement personnelle. C'est aussi le piège de... puisqu'on parlait de token, donc de tokenisation.
D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas expliqué ce qu'était la tokenisation, mais c'est un peu prendre une personne issue d'une diversité ou de plusieurs diversités données et de brandir, de la brandir comme un peu un totem d'immunité sur des questions de racisme, de sexisme, autre forme de discrimination. Genre, on peut pas être raciste, on a eu Obama comme président.
Voilà, exactement, par exemple. Et l'effet pervers de ce truc-là, c'est de se dire, quand tu fais partie du statu quo, donc quand tu fais partie plutôt de la sphère dominante, il est très facile de prendre une personne au choix et de faire comme si cette personne, cet individu, représentait toutes les personnes qui lui ressemblent.
Oui.
Donc,
pas du tout.
Et oui, voilà, exactement. tu vois, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant qui est revenu assez souvent dans les témoignages de femmes ou d'hommes d'ailleurs, qui, parce qu'on peut aussi parler d'eux, hein, qui reviennent un peu en mode parce que de la rédemption et qui me disent non, mais je me rendais pas compte en fait. Moi, j'ai toujours grandi dans des environnements très masculins, donc forcément, c'était la femme qui était une exception, mais si tu veux, limite, on la voyait pas, donc forcément. Et quand j'arrive à la suite de mes études, dans mes premiers jobs, dans les entreprises, et dans les équipes tech, où je me rends compte que finalement, il y a une ou deux femmes, ou admettons surtout une en général, qui fait pas le job, je tombais dans le piège facile, surtout quand tu passes dans une situation de management, de management et de recrutement, ce biais à te dire « oui, alors cette femme-là, elle a pas fait l'affaire, du coup, moi, je prends plus de femmes, tu vois. » Et ça, c'est vraiment un arc narratif de rédemption qui est très commun chez les hommes dans la tech, qui se rendent pas compte de la violence de ce que ce, tu vois, cette réflexion inflige aux femmes, mais à toutes les minorités par la suite. T'imagines si on disait ça, du coup, de personnes racisées, ou de personnes handicapées, en fait. Enfin, peu importe l'intersection, au final. Mais il y a ce truc de statuer que finalement, bah, si une personne représentant telle intersection n'a pas fait l'affaire, alors toutes les autres mêmes personnes de cette intersection ne feront pas l'affaire. Enfin, je suis navrée, mais alors il y a combien de femmes qui pourraient dire ça de collègues hommes médiocres, en deçà de médiocres, qu'on continue à employer dans diverses équipes on pose pas la question, tu vois. Enfin, c'est complètement... Enfin,
c'est... Oui, et puis c'est surtout que personne se ressemble. Hein. Je veux dire, à l'échelle de 20 personnes, personne se ressemble, personne n'a les mêmes manières de faire, personne n'a les mêmes personnalités. Et je sais plus avec qui j'en discutais il y a pas longtemps, mais effectivement, il y avait aussi à l'inverse ce truc de se dire, bah, j'ai l'impression de représenter moi aussi l'ensemble de la population féminine parce que je suis la seule recrue de cette intersection. Ce qui met énormément de pression. Et je sais plus dans quel article. Après, c'était Laetitia Vito qui en parlait, qui disait que c'était genre au-delà, quand t'as moins d'un tiers d'un effectif qui est issu d'une minorité, bah en fait, tu colles aussi tous les clichés.
Exactement.
Parce que t'as l'impression que, bah, effectivement, si je suis la seule meuf, je vais faire attention à pas trop parler, à bien m'habiller, à pas avoir un petit peu d'autre. Alors que si on est plusieurs, je vais reprendre mon style schlag et dire. Ah, de toute façon, c'est pas grave, c'est comme ça que je suis, et tout le monde pourra voir comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Mais c'est chaud de. Donc, plus on a de représentation, en fait, plus on peut être soi-même, et plus ça devient lambda et acquis que l'inclusion, c'est la norme.
Ben, complètement. Et en fait, tu vois, je pense qu'il y a aussi cette. Comment dire, incompréhension de ce qu'est l'inclusion, dans le sens. L'objectif, c'est pas uniquement de faire une pub de United Colors of Benetton, tu vois, genre, c'est bon. On en est pas là.
Oui, je l'ai toujours en tête aussi.
Voilà, c'est un peu ce truc de... Oui, évidemment, il faut de la représentation, il faut de la représentativité, c'est important. Évidemment qu'il faut déconstruire tous les biais racistes, misogynes, validistes, ableistes, ce qu'on veut, sur les individus. Aussi, raconter ces narratifs-là, ces représentations, c'est quelque chose d'important. On le voit très bien avec les séries Netflix qui te font une espèce de parade de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de peau, d'orientation sexuelle, whatever. Mais en fait, vu que c'est écrit par des gens qui n'y connaissent rien, c'est juste nul. Et du coup, les gens sont là en train de se dire « mais ça ne représente pas du tout les enjeux qu'on vit ». Et puis, juste les individualités qui peuvent juste être des individualités, tu vois, avec des affaires qui fonctionnent. Genre, on n'est pas forcément constamment dans la lutte quand on est une minorité. Genre, on ne se lève pas le matin en mode « Ah, oh, super, ce bol est tombé du mauvais côté, je sais très bien que ça va me déclencher une crise d'activisme. » Mais oui, enfin, des fois, je me dis « Mais, ouais, on peut se calmer. » On peut effectivement redescendre un petit peu et aller juste sonder. Il y a ce truc de... En fait, il faut comprendre que l'inclusion, c'est la capacité aussi de permettre aux individus issus de minorités d'être qui ils sont, purement et simplement. Enfin, c'est tout à fait ok, ça existe, des noirs geeks, genre, en vrai, tu vois, je suis là, même dans la tech, historiquement, ça existe. Pourquoi c'est si incompatible que ça? Pourquoi on devrait juste coller, tu vois, une image, je sais pas, moi... Oui, bah alors il est noir, il doit forcément bien danser aux afterwork. Mais non, ne faites pas ça. Non, stop. C'est trop bizarre. Et du coup, l'inclusion dans la diversité que ça amène, c'est aussi ça. C'est comprendre l'anticipation des risques discriminatoires sans tomber dans le syndrome de la pub United Color de Benetton.
Et en plus, tu vois, ce qu'on était en train de dire, c'est que à partir du moment où la minorité, enfin les personnes issues de minorité peuvent être elles-mêmes, ça veut dire que toi aussi. Tu vas pouvoir être toi-même. Mais
c'est ça.
C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est un cercle vertueux et ça.
Mais complètement.
Avant de comprendre. Mais c'est essentiel de se dire c'est tout le monde y gagne. C'est pas.
Bien sûr.
C'est pas toi versus le monde.
Bah, complètement. Enfin, sinon, ça veut dire quoi? Dès que j'intègre une équipe homogène, je me dis, ah bah super, ils doivent pas tolérer les épices. Enfin, toi, moi aussi, je peux avoir des images d'Épinal complètement claquées.
C'est vrai.
Ça n'a pas de sens. Donc, tu vois, c'est ça qui est assez étrange.
C'est vrai, j'y avais jamais pensé, mais c'est extrêmement à la fois marrant, absurde, oui. Et ça vient à l'esprit de personne de se dire. Non,
mais c'est ça. Enfin, je veux dire, je vois un danseur blanc qui sait super bien danser la salsa, je vais pas dire « Oh, mais incroyable, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle de mon environnement de femmes racisées. D'habitude, ils ne savent pas danser. » Bah non, enfin,
c'est non, cool. Tu dis juste « Trop cool, j'ai envie de danser la salsa avec cette personne. »
Voilà, tu
vois. Je les signe où? Oui.
Exactement. Non, mais tu prends les gens comme ils sont sans aller trop loin dans les délires narratifs hérités de voilà de, des questions misogynes, patriarcales, coloniales et tout le reste, c'est tout à fait ok. Je réfléchis pas comme ça en tout cas. Je suis pas dans une situation en me disant oh super encore une pause déj, on va nous dire.
Oui, mais en même temps c'est super important de pouvoir avoir des espaces où ouais on peut tous et toutes être authentiques. En tout cas, trop beau. Cool. Écoute, merci beaucoup pour cette discussion. Et je te retrouve très vite au bord du bassin pour te suivre. C'est donc plus Twitter, c'est ça? LinkedIn et...
Ouais, il y a LinkedIn et il y a
Skype.
Exactement.
Ok. Ouais, donc, je mettrai tous les liens dans la description.
Super, avec plaisir.
Bah, merci encore et à bientôt.
Bah, je t'en prie, merci à toi.
Ah. Et je crois...
Et voilà, on arrive au bout de cet épisode, merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau !